Jeunesse Influente, une émission présentée par et pour les jeunes, tous les mercredis, 14h-15h sur O2 Radio.
On parle de la jeunesse comme un problème, parfois comme d'un espoir, mais rarement comme d'un ensemble de voix différentes. Bienvenue dans Jeunesse Influente, il est 14h, merci d'être avec nous durant cet après-midi, je suis Sid Ahmed. Et on est en compagnie avec Sam, pour nous entendre dire qu'il suffirait parfois de traverser la rue pour trouver du travail. Mais de l'autre côté du trottoir, la réalité est parfois bien différente. Sam, tu t'es penché sur ce qu'on ne voit pas quand on balance ce genre de phrase.
Je traverse la rue et je vous en trouve du travail, disait Macron. Mais si c'était si simple, pourquoi tant de secteurs sont en pénurie d'employés? Bien que le taux de chômage soit stable avec 7,3% des Français en 2024 selon Eurostat, le marché du travail reste un espace difficile d'accès, que ce soit du côté des employeurs ou des demandeurs. En effet, malgré le nombre de candidats, certains métiers peinent à trouver des employés, notamment dans le bâtiment, la santé et le médico-social, ou encore l'hôtellerie et la restauration. Ce manque s'explique par les conditions de travail souvent difficiles, que ce soit physiquement, par les horaires décalés ou par le côté ponctuel avec des emplois uniquement saisonniers, ou encore peu attractifs par leur rémunération ou leur manque de valorisation. Alors que le vieillissement de la population mène à penser que cela crée plus de postes et d'emplois, la pénibilité du travail empêche les seniors d'être actifs jusqu'à l'âge légal de la retraite. Cela crée donc un taux de chômage de 4,9% en 2024 selon l'Observatoire des inégalités. Tandis que le chômage des jeunes de moins de 25 ans s'élevait à 18,8% par manque d'opportunités. En effet, les jeunes employés disposent de moins de moyens d'activité par leur manque d'expérience, déjà difficile d'accès, mais aussi par les contrats proposés bien trop souvent en CDD. Au final, peu importe qui vous êtes, vous pouvez rencontrer des difficultés, mais c'est pas pour autant qu'elles sont impossibles à surmonter.
Magnifique pour cette chronique, Sam. Et on enchaîne avec Noam, et qu'on parle de traverser la rue, on parle forcément de travail. Mais est-ce que le travail aujourd'hui est vraiment pensé pour les jeunes? Noam, tu nous expliques à travers ton expérience en tant qu'animateur.
Merci beaucoup, Sid. Comme nous l'avons vu avec Sam, le monde du travail est un milieu complexe, et cela le devient plus encore dans un monde où le coût de la vie augmente rapidement. Il peut être difficile de trouver un bon travail et de le garder. Dans ces conditions, on peut dire qu'exercer le métier de nos rêves, celui pour lequel on se voit fait, ou qui nous permettra d'avoir une bonne situation, devient un luxe ou un rêve qui demande de gros efforts. En ce qui me concerne, j'ai pour projet de passer mon BAFA pour devenir animateur. Donc, pour vous présenter un peu ce qu'est le BAFA, il s'agit du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, et donc qui permet de travailler, par exemple l'été, dans les campings ou dans les colonies de vacances. Le métier d'animateur est un métier que j'ambitionne pour plusieurs raisons. Les premières sont me démarquer, car c'est quelque chose qui me semble inné chez moi, qui est une de mes qualités, qui est ressortie au travers d'expériences telles que dans des campings où j'ai fait des activités de bénévolat. J'ai bénéficié d'un accompagnement chez La Fève où j'ai participé en tant que tuteur auprès d'un jeune. Ce sont des expériences qui sont venues naturellement et pas par le biais des études qui ont été très présentes dans ma vie. Et le métier d'animateur me permettra de mettre en lumière cette part de moi, l'enfant intérieur qui m'anime depuis ma plus tendre enfance, de m'épanouir et de transmettre au monde un métier qui est très utile et trop souvent mis de côté, de même que le métier d'enseignement. Les difficultés que j'ai rencontrées au cours de mes démarches sont en grande partie financières, car le monde du travail aujourd'hui nécessite des ressources et financièrement c'est très compliqué parfois. Un besoin d'aide d'ailleurs, par ailleurs, dans les démarches administratives et informatiques, des domaines dont je ne suis pas vraiment maître. Et toutes ces aides-là ont pu être apportées par le CEJ, le contrat engagement jeune, dont je suis membre, dont je fais partie depuis le 19 novembre 2025. Et grâce à tout ça, j'ai pu me lancer dans les démarches pour accéder à mon objectif de passer le BAFA pour devenir animateur. Malheureusement, la session que je voulais pour le mois de février est complète. Donc je n'aurai pas la chance de passer mon BAFA directement, tout de suite. Mais je continuerai d'avancer malgré tout, malgré les difficultés, dans les démarches grâce à la mission locale, dont nous allons vous parler dans un instant. au travers d'une FAQ. Et voilà, je voulais partager un peu mon expérience, dire que malgré les difficultés, on peut toujours essayer d'avancer, comme l'a dit Sam très justement, et que les rêves sont là pour nous motiver à avancer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour ce passage sur la chronique, Noam. Et on critique souvent les dispositifs qui encadrent les jeunes, mais encore faut-il comprendre comment fonctionnent réellement. Alors, on va parler ensemble ici autour de la table et répondre aux questions qu'on se pose tous sur la mission locale. Concrètement, à quoi ça sert? Qui peut y aller? Et pourquoi certains jeunes en ressortent avec un bon souvenir, alors que d'autres, beaucoup moins? Et je suis en compagnie avec Pierre, Isabelle, Noam et Sam.
Bonjour à tous. On est à votre service. On peut répondre à vos questions. Alors, peut-être que vous aviez eu... des idées reçues sur la mission locale. Puis on a peut-être des questions aussi à vous poser par rapport à vos parcours. Toi, par exemple, tu viens de parler du BAFA. Est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur le parcours pour trouver des financements, des choses comme ça? Tu as été accompagné par une conseillère, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. J'ai commencé mon suivi à la mission locale et on a vu comment je pouvais avoir accès à... aux démarches, comment on pouvait m'aider à avancer dans cette démarche. Et après, on a abordé la question financière, et donc le CEJ me permet de toucher des allocations mensuelles qui me permettront donc d'avoir un début de financement pour ensuite avancer vers ce projet, et puis dans la vie active de façon plus sereine.
Alors, c'est vrai, donc ça peut aider l'allocation contre engagement jeune, mais il y a aussi des aides dont on peut bénéficier. Donc, suivant les ressources, il y a une aide de la région, donc ça dépend de l'avis d'imposition. Et également la CAF à la fin, parce que le BAFA, il y a 3 sessions, la session générale, le stage, ensuite un approfondissement. Et une fois que vous avez fini ce parcours, vous pouvez bénéficier d'une aide de 100 euros à peu près auprès de la CAF.
Est-ce que vous aviez des appréhensions avant d'être inscrit à la mission locale?
Je pense qu'il serait bien de définir ce qu'est la mission locale avant de commencer à répondre à ces questions.
Bah, trop bonne question.
Je propose de passer la parole à Sam qui pourrait commencer à donner une définition de ce qu'est pour elle la mission locale.
Alors, pour moi, la mission locale, c'est un organisme qui permet d'accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur démarche vers... la vie plus adulte et professionnelle, que ce soit du côté de leur orientation, comme avec ton BAFA, mais que ce soit aussi du côté du logement, de tout ce qui va avec l'administratif, les choses comme ça. Ouais.
C'est pas mal, déjà. C'est très, très juste. On peut passer la parole peut-être à Sid. Tu veux nous parler de ce qu'est pour toi la mission locale?
Eh bien, moi, j'ai rejoint la mission locale en 2022-2023. Après avoir fait une année de pause entre mes études et tout, parce que je ne savais plus trop quoi faire, parce que j'avais fait un stage Erasmus pendant 7 mois à Copenhague. Et en rentrant en France, bah, malheureusement, je n'avais pas trouvé une école d'architecture. Du coup, je ne savais pas trop où aller. Du coup, il y avait un membre de ma famille qui m'a dit « Pourquoi pas, tu irais juste voir la mission locale et puis tente-le et tu verras si ça t'aide ou pas. » Et du coup, ce qui fait que grâce à la mission locale, bah, j'ai pu trouver ce que je veux faire et quels sont mes objectifs. Ça m'a permis aussi de découvrir des domaines auxquels j'avais complètement oublié. Alors, par exemple, le cinéma, parce que le cinéma, c'est quelque chose qui me passionne depuis gamin. Là, par exemple, j'ai réalisé déjà 2 courts-métrages, qui fait que grâce à la mission locale, j'ai pu, réallumer cette petite flamme que j'avais en moi concernant le monde du cinéma. Et aussi, je suis en études de langue supérieure à la fac de Montaigne, sur le japonais, parce que j'ai comme projet de partir au Japon, faire mes études en tant que... architecte au Japon. Du coup, tout ça, c'est grâce à la mission locale, parce qu'en vrai, sinon, je pense que je n'aurais jamais eu ce genre de projet. Du coup, pour moi, la mission locale, c'est vraiment une structure, c'est un peu le phare pour les jeunes qui ne savent pas trop où aller, où ils n'ont pas de moyens de s'exprimer pour savoir où, comment y aller.
Ouais. Je crois que c'est ce que je préfère dans la mission locale, c'est que quelqu'un qui ne sait pas forcément ce qu'il veut faire ou ce vers quoi il peut aller se trouvera sa voie dans la mission locale. Mais un jeune qui sait aussi où est-ce qu'il veut aller. Par exemple, moi, je savais que je voulais être animateur, mais je ne savais pas forcément comment. Et c'est aussi un moyen de se faire accompagner jusqu'à réussir finalement à atteindre ce qu'on s'est fixé comme objectif. Et je trouve ça génial.
C'est sûr que ça aide énormément de jeunes, de, peu importe leur situation, pour ceux qui ont déjà un projet précis, mais aussi pour ceux qui ont dû quitter, par exemple, le parcours scolaire. Ça leur permet d'avoir énormément d'autres portes qui permet vraiment de se rassurer sur le fait que bah, c'est pas parce qu'on ne suit pas un parcours professionnel plus classique et considéré normal qu'au final on n'a pas d'avenir et qu'on a gâché notre vie. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve super parce que je ne saurais pas comment le décrire en fait. Mais
bon, prend, hein, super. Ouais, hein. On aime bien super, nous.
Oui. Très bien résumé. Non, ce qu'on peut dire en complément, c'est que c'est une association loi 1901 avec une mission de service public. Donc, on propose un accompagnement global. Donc, il y a l'accompagnement sur le projet professionnel pour travailler l'orientation, l'accès à l'emploi ou la formation. Mais aussi, on peut apporter des renseignements sur toutes les questions autour de la citoyenneté, la santé, le logement, la mobilité. Le but, c'est de lever tous les freins pour avancer et atteindre votre objectif. Et après, on propose aussi un accompagnement un peu innovant avec la Green Mission, mais on vous en parlera en fin d'émission.
Oui.
Pour en revenir à la question des a priori que vous aviez évoquée, personnellement, je n'en avais pas. Je ne sais pas si beaucoup autour de moi partagent cette pensée. J'étais juste à la recherche de quelque chose pour m'aider à avancer vers mes objectifs. Maintenant que j'ai pris une année de pause dans mes études pour pouvoir me consacrer à d'autres projets. Et on m'a dit que la mission locale pouvait être le mieux placé pour m'aider dans ce but-là. Après, je sais qu'aujourd'hui, de plus en plus... après m'être inscrit à la mission locale, je me suis rendu compte que peu de jeunes connaissaient ça d'eux-mêmes. Ou alors, je n'ai pas entendu beaucoup me proposer ça, c'est vraiment venu de ma famille. Et donc je me dis qu'aujourd'hui, peut-être que ça mériterait d'être plus connu, mieux démocratisé chez les jeunes, qu'ils soient capables d'en parler pour eux-mêmes et qu'ils puissent se faire, entre guillemets, une bonne publicité. Parce que les a priori peuvent peut-être fermer toute envie de s'y aventurer. Alors qu'en fait, c'est vraiment pratique pour tous les objectifs qu'on a en tête. Et je me dis qu'aujourd'hui, ça aurait mérite à être plus connu.
Mmh. Alors moi, je voulais ajouter peut-être que parfois, certains jeunes peuvent être déçus, mais c'est peut-être avec l'état d'esprit qu'ils arrivent. Alors, on les aide, on donne des clés, des outils, mais malheureusement, on n'est pas des magiciens, on n'a pas de baguette magique. Mmh. Donc, le projet se co-construit avec le jeune. On donne plein d'astuces, d'outils, mais il faut que le jeune s'en saisisse et devienne acteur aussi, parce qu'on ne peut pas faire les démarches à sa place. Mais on essaie vraiment d'apporter l'essentiel pour qu'il puisse avancer et le guider. Tu veux rajouter quelque chose, peut-être, Pierre ?
Non, c'est ça. Mais c'est un peu ce que j'allais dire. C'est un travail d'équipe. C'est une rencontre. Le conseiller que vous allez avoir, justement, qui va vous accompagner sur votre parcours, c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut qu'il y ait ce lien qui se crée et tout. Donc, on va dans la dentelle, on va dire. On fait l'accompagnement par rapport à la personne. Et c'est individualisé. C'est pas un truc général. Donc voilà, il faut que ça matche. Et puis si ça matche, eh bien, on avance bien. Et puis on prend le temps surtout. Je pense que c'est une notion qu'il faut qu'on récupère un petit peu dans ce monde. C'est-à-dire que là, on prend le temps. Il y en a avec qui les projets vont avancer rapidement. D'autres où il va falloir peut-être être un peu plus sur le... repérer plus de freins. Il y a peut-être des choses qui bloquent. Et du coup, on prend le temps de construire le projet. On ne se précipite pas et on est à l'écoute du jeune et on va au rythme, au tempo du jeune aussi. On va pouvoir des fois te mettre un petit coup de collier pour que ça avance un peu plus vite quand même. Enfin, collier, entre guillemets, hein, entendons-nous bien. Mais on prend le temps. Et voilà, là, c'est ça, je pense que... En tout cas, sur la mission locale des Hautes-Garonne, c'est ce qu'on fait.
Oui.
Hein, ouais. Voilà.
Donc, okay. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour cette chronique sur la mission locale. Du coup, on enchaîne maintenant avec l'autre chronique... qui a écrit par Chloé. Le corps aussi fait partie des sujets qu'on a longtemps évités. Et pourtant, il concerne une partie de l'humanité. Chloé, tu peux nous parler aujourd'hui d'un sujet encore qu'on peut aborder ?
Oui, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la précarité menstruelle, mais en général des règles, et particulièrement des protections hygiéniques. Alors, lorsqu'on parle des règles, on parle de perte de sang, de syndrome prémenstruel, de douleur et bien évidemment de protection périodique. Et aujourd'hui, c'est de ce sujet dont je vais vous parler, plus particulièrement des protections périodiques à travers l'histoire. Car si aujourd'hui l'utilisation d'un tampon ou d'une serviette hygiénique semble on ne peut plus normale et ancrée dans notre vie quotidienne, autrefois les règles pouvaient représenter un vrai défi chaque mois. Les premiers témoignages sur l'utilisation de protections périodiques remontent à l'Égypte ancienne. Les Égyptiennes utilisaient divers matériaux comme des fibres de papyrus. Une fois la plante ramollie, on utilisait ces fibres comme matériaux absorbants, tout comme on pouvait utiliser du lin ou de la laine pour les disposer à l'intérieur du vagin, mais également parfois à l'extérieur, pour une meilleure protection. En Grèce antique, on utilise des fibres végétales, de petits morceaux de laine, des éponges naturelles, ou même des bandes de coton que l'on enroule autour d'un petit bâtonnet en bois pour les introduire dans le vagin à la manière d'un tampon. Des siècles plus tard, au Moyen Âge, la montée en puissance de la religion dans la société change la gestion des règles. Les dispositifs internes, vus comme un péché, sont abandonnés. On laisse donc couler le sang. Pour les femmes les plus riches, il est absorbé par les jupons de leur robe. Quant aux plus modestes, comme les paysannes, elles lavent régulièrement le sang de leurs jambes avec de l'eau. Pendant plusieurs siècles, c'est ce système qui perdure, non seulement dû aux croyances religieuses, mais aussi par habitude. C'est seulement au début du XXe siècle, avec les travaux de Pasteur sur l'hygiène, que les femmes recommencent à utiliser des protections lors de leurs règles. On voit alors arriver la première ceinture menstruelle, qui est en fait une ceinture faite avec un élastique, auquel on accroche un linge ou des serviettes en tissu avec des épingles à nourrice. C'est également à la même période qu'apparaît le premier modèle de coupe menstruelle. À l'époque, cette invention consistait, comme pour la ceinture menstruelle, en une ceinture élastique à laquelle était relié à l'aide d'un fil un réceptacle qui se plaçait partiellement à l'intérieur du corps. C'est à partir de ce moment-là que les évolutions et innovations dans les dispositifs de protection hygiénique n'ont cessé de se multiplier, facilitant chaque fois un peu plus le quotidien des femmes menstruées. Dans les années 20, c'est le début des serviettes jetables, lancées par l'entreprise américaine Kimberly-Clark, qui crée la marque Kotex. La marque en gagne en popularité en plaçant des annonces publicitaires pour ses produits dans des magazines destinés à des femmes au foyer. Si à l'époque cette démarche fait scandale, dans une société où les règles sont tabous, elle popularise ces serviettes dont la technologie est directement inspirée par le matériel utilisé par les infirmières pour remédier aux blessures des soldats lors de la Première Guerre mondiale. C'est la gaze. Les serviettes hygiéniques des années 20 sont donc des bandes de coton entourées de gaze. Elles sont toujours attachées à une ceinture. Quelques années plus tard, en 1933, c'est au tour de Tampax de révolutionner les protections périodiques avec la création du premier tampon moderne. Il est considéré comme plus hygiénique. À cette époque, les scientifiques se questionnent sur des risques sanitaires et bactériologiques causés par l'utilisation des serviettes menstruelles. En 1937, l'actrice et chanteuse américaine Leona Chalmers dépose le premier brevet de coupe menstruelle en caoutchouc souple. Malheureusement, la production de ce produit s'arrêtera plus tard à cause de la réquisition des matériaux pour l'effort de guerre américain. Dans les années 40, de plus en plus de femmes commencent à travailler. Elles sont donc plus nombreuses à utiliser des tampons, qui s'adaptent mieux à leur vie active, surtout lors de la guerre. On remarque ainsi que les femmes qui portent des tampons ne retournent alors plus vers les serviettes. Pourtant, comme au Moyen Âge, c'est le retour de la stigmatisation des dispositifs intravaginaux, avec des questionnements sur la virginité, la masturbation et de potentiels effets contraceptifs. Le public cible de ces publicités pour les tampons sont d'ailleurs des femmes mariées. Aussi dans ces années-là, deux physiciens allemands collaborent pour créer un tampon sans applicateur, qui s'étend multidirectionnellement pour augmenter des protections contre les fuites. Dans les années 50, Mary Kenner, une inventrice noire, dépose un brevet sur l'invention d'une ceinture hygiénique réglable, inventée dans les années 20. Elle dépose le brevet seulement en 1950 par manque de fonds. Cette invention consiste en une ceinture réglable à laquelle est attachée une poche résistante et absorbante, à l'intérieur de laquelle est placé un tissu absorbant lui aussi. Malheureusement, l'invention de Mary ne sera commercialisée que dans les années 60 à cause des discriminations raciales à son encontre. Cette invention devient précurseur des serviettes hygiéniques adhésives qui succéderont aux ceintures menstruelles dans les années 70. Une nouvelle invention qui d'ailleurs rendra obsolète l'utilisation de la ceinture menstruelle. C'est également dans les années 70 que les tampons gagnent en popularité et que la coupe menstruelle refait son apparition. Les années 80 voient quant à elles apparaître l'acceptation des tampons. Les stigmatisations sont moins nombreuses et ce produit devient même un incontournable parmi les protections périodiques. On développe aussi des designs avec un meilleur applicateur pour plus de confort d'utilisation. Les progrès se font également au niveau des serviettes hygiéniques, avec là aussi une évolution pour une meilleure adaptation à la vie des femmes actives. Les serviettes deviennent plus fines et plus discrètes, même si la qualité d'absorption évolue peu. Et aujourd'hui alors ? Depuis les années 2000, les innovations qui concernent les protections hygiéniques prennent en compte de nouvelles problématiques comme la santé et l'environnement.
Des études menées sur la composition des protections hygiéniques ont poussé les consommatrices à vouloir plus de transparence sur ces produits d'hygiène qu'elles utilisent chaque mois et qui peuvent parfois être nocifs pour leur santé, puisque traités avec des produits chimiques. Les protections réutilisables font leur retour avec la coupe menstruelle, en silicone, latex, caoutchouc naturel ou élastomère thermoplastique. La coupe menstruelle est un produit qui se décline en plusieurs tailles pour mieux s'adapter au flux de chacune. Il suffit seulement de la faire bouillir pour la stériliser après chaque utilisation. Le disque menstruel est également une alternative similaire. A noter que certains sont jetables et d'autres, comme la coupe menstruelle, sont en silicone réutilisable. Toujours dans un souci de préserver l'environnement et de s'exposer le moins possible aux produits chimiques, les serviettes et culottes en coton lavables réutilisables sont en plein boom. Elles se déclinent dans différents modèles, là aussi pour s'adapter à chaque utilisatrice et à leurs préférences. En ce qui concerne les protections hygiéniques plus classiques, la composition des serviettes et des tampons se réinvente petit à petit, même si elles restent en grande partie constituées de plastique. Certaines sont tout de même biodégradables, parfois composées en majorité de coton, parfois bio et sans parfum, donc meilleures pour la santé, même si le second ingrédient majeur des serviettes reste le plastique. Pour finir, je dirais que quelle que soit l'époque, les protections hygiéniques reflètent la société, sa perception des menstruations et de la place de la femme au sein de cette dernière. Si autrefois les institutions religieuses et préjugés, parfois reflets du patriarcat, donnaient le ton en matière de protection menstruelle, aujourd'hui les femmes se réapproprient leur corps et la gestion de leurs règles. Les alternatives sont multiples et s'inscrivent dans un développement toujours plus soucieux de l'environnement et de la santé des femmes, avec par exemple des améliorations dans la composition des produits et sur leur absorption, avec pour la première fois en 2023 des tests réalisés avec du vrai sang menstruel. L'étape suivante est nécessaire, à présent, et de faire en sorte que chacune ait accès à ces protections hygiéniques qui sont essentielles. Car en effet, ces produits sont taxés à hauteur de 5,5%, taxe qui a certes baissé depuis 2015, mais qui reste trop élevée pour garantir un accès aux plus précaires. Dans ce domaine, d'autres pays ont fait des efforts. Depuis octobre 2018, l'Afrique du Sud et l'Australie ne taxent plus les protections hygiéniques. L'Écosse, quant à elle, a rendu les protections périodiques gratuites depuis août 2022. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les protections périodiques et surtout sur la manière dont elles étaient perçues à travers l'histoire, je vous encourage à aller voir la vidéo de Charlie Danger sur la chaîne YouTube Les Revues du Monde, intitulée « Les règles dans l'histoire », qui est une de mes sources de rédaction. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Waouh, merci beaucoup pour cette chronique. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses, déjà sur l'usage des tampons. Je pensais que ça datait depuis 40-70 ans, mais non, pas du tout, ça fait moins d'un siècle que ça existe.
C'est ça.
Et maintenant, on enchaîne avec la petite chronique sur la musique. Parfois, quand les mots manquent, c'est la musique qui nous prend le relais. Et c'est Nassim qui est avec nous aujourd'hui.
Tout à fait, merci. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Nassim, j'ai 24 ans. Je suis musicien et aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours en MAO qui dure depuis maintenant 4 ans à peu près. Alors aujourd'hui, je vais surtout aborder qu'est-ce que la MAO et à quoi ça sert, comment on s'en sert en tout cas. Donc en fait, c'est tout simplement un acronyme qui signifie musique assistée par ordinateur. Donc quand on pense à la musique en général, on va souvent penser au piano, à la guitare, à la batterie. Mais moi, j'ai découvert un autre univers, la création musicale directement sur ordinateur. Donc la MAO, c'est tout simplement l'ensemble des outils qui permettent de composer, enregistrer et produire de la musique directement sur ordinateur. La première chose qu'on va utiliser, c'est un DAW, D-A-W, donc un logiciel qui va nous servir de support en fait pour exprimer notre créativité. Les plus connus sont FL Studio, Ableton et Logic, mais il y en a des un peu moins connus comme Cubase par exemple, ou encore LMMS. Avec un DAW, du coup, on peut vraiment tout faire. On peut par exemple créer un rythme avec ce qu'on appelle des drum kits, c'est-à-dire des dossiers qui contiennent des sons qui vont nous permettre de poser directement des percussions pour faire le rythme en question du coup. Mais aussi enregistrer des vrais instruments pour ensuite les manipuler. Donc par exemple brancher une guitare électrique directement à une interface audio reliée à un ordinateur. Ou pour une guitare classique par exemple, enregistrer des prises au micro et ensuite les glisser dans le DAW pour les manipuler, les restructurer, etc. On peut aussi enregistrer des voix et les traiter, donc les rendre plus écoutables, plus propres et plus professionnels. C'est ce qu'on va appeler le mix de voix. Et pour ce qui est des mélodies, donc ce que moi j'aime le plus faire personnellement, on va utiliser ce qu'on appelle des VST, c'est-à-dire des... Alors l'acronyme ça signifie Virtual Studio Technology. C'est en fait des sortes de petits logiciels qui sont directement intégrés dans le logiciel, dans le DAW, ou qui sont aussi achetables. Et en fait c'est... c'est une sorte d'émulation d'instruments, en fait. Ce sont des instruments dématérialisés. Et la dernière chose qui est très importante dans le kit d'un compositeur MAO, c'est les plugins. Donc on entend souvent ce mot, mais les gens ne savent pas forcément à quoi ça sert ou ce que c'est. Et en fait, c'est aussi d'autres sortes de petits logiciels, mais qui, au lieu d'émuler des instruments, ils vont nous permettre d'ajouter des effets sur une piste audio. Donc que ça soit sur des instruments ou des voix. Voilà, c'est d'ailleurs de ces mêmes plugins dont on se sert pour mixer des voix, par exemple. Donc voilà, en tout cas, moi, ce que je trouve vraiment bien par rapport à la musique et notamment la MAO, c'est que ça n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. Il suffit juste d'avoir un ordinateur, un casque et un logiciel pour exprimer sa créativité. Et il suffit juste d'un petit peu de curiosité pour se lancer, en fait. Donc je vous laisse avec un extrait de ma musique. Merci de m'avoir écouté et bonne découverte.
Et merci, et de bien, pardon. Et de retour sur Audio Radio, sur l'émission La Jeunesse Influente. On enchaîne aujourd'hui maintenant avec la chronique avec Noam. La jeunesse ne s'arrête pas aux frontières. Il y a aussi des projets qui parlent de solidarité, de transmission et de liens entre les cultures. Je parle bien évidemment de l'association And Teranga El Ambot. Ça veut dire la main qui porte l'hospitalité sénégalaise. Un projet humain engagé, porté par des jeunes. On en parle avec Noam.
Merci beaucoup, Sid. Si je suis venu aujourd'hui dans cette émission, c'est aussi pour vous parler de l'association qui est organisée et dont mon grand-père est le président. Et une association qui nous tient à cœur dans notre famille et où chacun peut porter sa pierre à l'édifice. C'est quelque chose qui nous rassemble et qui va permettre d'aider le Sénégal. Et donc, je vais pouvoir vous parler de ce projet-là. Et j'ai une intervenante qui va en parler aussi. Il s'agit de ma mère, qui est elle aussi très impliquée dans l'association. Et donc, on va pouvoir vous parler de tout ça. J'ai posé des questions aux membres de l'association qui sont en contact avec moi une grande proximité. Je leur ai demandé depuis quand ils faisaient partie de l'association et depuis quand ils étaient des membres participants, leur position ou rôle dans l'association, pourquoi ils en faisaient partie, c'était une question intéressante, quelles étaient leurs craintes ou leurs difficultés, personnelles comme collectives, quels étaient leurs espoirs ou leurs objectifs pour 2026, et enfin, quel était leur ressenti global concernant l'association et s'ils étaient optimistes pour la suite. J'ai eu de nombreuses interventions, mais je pense que je vais commencer par demander à ma mère, à Raïssa Colli, donc de répondre un peu à ces questions et de donner un peu un premier avis.
Bonjour, merci Noam de m'avoir invité à parler de l'association qui nous réunit, l'association familiale.
Très bien. Donc je vais commencer par les réponses du président lui-même, donc mon grand-père, Roger Colli, créateur de l'association Elan Sindo le 24 décembre 2020 et de Anteranga en 2017. Au départ, Anteranga est une association qui permettait d'apporter du matériel de sport aux jeunes au Sénégal pour qu'ils puissent avoir les ressources nécessaires là-bas. Et de fil en aiguille, nous avons fusionné l'association Anteranga avec Elan Sindo, qui avait comme projet de lancer une coopérative au Sénégal et de donner des ressources pour que les jeunes puissent trouver du travail sur place et sans forcément venir en France et perdre leurs repères. Donc c'était un moyen de venir en aide aux personnes du Sénégal. Mon grand-père, avant de prendre sa retraite, faisait de nombreux allers-retours entre Bordeaux et Dakar. Il le fait toujours aujourd'hui. Il a cherché à voir comment il pouvait aider les jeunes de diverses façons. S'est mis en lien avec donc la fédération de handball et ses objectifs donc ont été dès le départ de venir apporter de l'aide et se rendre utile dans le pays qu'il a vu grandir. Et même ici en France, il a lancé des actions qui permettent de lier nos deux pays pour les démarches.
Donc si je peux apporter des précisions. Anteranga avait pour vocation, donc, comme l'a dit Noam, d'apporter du matériel de handball à la base au Sénégal. Donc du matériel collecté par les clubs, par des particuliers, acheminé là-bas par container. Dans le but de créer des centres de formation de joueurs, d'arbitres, et d'entraîneurs. Donc c'est en cours à l'heure actuelle, parce qu'au Sénégal, il y a quand même une pépinière et apporter le sport dans la scolarité, c'était un point d'honneur qui s'était fixé, parce que mon père, Roger Colli, est un professeur d'éducation physique à la retraite et entraîneur de handball aussi, hein, puisqu'il est à la fondation aussi du club de handball de Floirac, qui aujourd'hui est devenu Floirac Senon Handball. Donc voilà.
J'ai posé des questions également à deux membres de l'association. Le premier, Hugues Benoît, est le trésorier de l'association. Et la seconde, Nathalie Pierre, est une adhérente. Donc je vais pouvoir vous présenter un petit peu les réponses que j'ai pu obtenir. Donc Hugues Penaud, présent dans l'association depuis 2 ans et demi, est le trésorier, chargé de collecter les adhésions et organiser les événements, donc collecter des dons pour réaliser les projets de l'association, qui est bénévole. La raison pour laquelle il fait partie de l'association est pour accompagner la famille Colli, qu'il connaît depuis longtemps. C'est là où l'association peut vraiment montrer cette image de grande famille, parce qu'en dehors de la famille Colli, dont je fais partie, c'est toutes les personnes autour de nous qui peuvent également nous aider, et au final nous formons vraiment un groupe soudé qui connaît des difficultés, mais nous sommes quand même très soudés. C'est aussi une manière de participer à ce beau projet, partager de bons moments, découvrir la culture sénégalaise ici ou à Dakar. Et même si les difficultés ont été présentes ces derniers temps, c'est quand même un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Et autour de nous, c'est le cas, comme nous pouvons le voir également avec Nathalie Pierre, qui a découvert l'association grâce à Hugues, donc, qui a trouvé l'intérêt pour le projet en Casamance, qui avait déjà voyagé en Afrique de l'Ouest, mais qui s'est rendu compte que en Afrique, la majorité des projets d'aide s'apparentaient à la colonisation sous le terme coopération. Et donc l'approche de Roger Colli donc l'a convaincu, car c'est une approche très professionnelle et qui représente bien la volonté de l'État sénégalais de développer les coopératives. Et c'est un projet qui est soutenu par les Sénégalais eux-mêmes, et ici aussi nous apportons notre pierre à l'édifice autant que possible.
Donc en fait, si le projet de Enteranga était de collecter des sportifs, Elan Sindo, anciennement Elan Sindo, est une vision commune à Roger Colli et à ses cousins du Sénégal de mettre en place une coopérative effectivement pour mettre en relief les bons produits qu'il y a, parce que on appelle Casamance, en fait c'est une région du Sénégal qui se trouve au sud du Sénégal et qui s'appelle aussi le grenier du Sénégal. Pourquoi ? Parce que la terre est extrêmement riche et le riz qui est produit là-bas aide à nourrir la population casamançaise comme la population sénégalaise en gros. Donc l'idée, c'était de promouvoir justement cette agriculture, la production de fruits aussi, parce que c'est vraiment extrêmement riche, de garder ces produits-là pour nourrir la population sur place et vendre le surplus à l'étranger, et non pas, comme ça se faisait à une époque, produire le riz, le vendre pour gagner de l'argent et puis racheter du riz, par exemple, aux Chinois. Donc c'était pour tout mettre en place comme ça. Bon, suite à des divergences d'opinion, parce que c'est une réalité aussi, hein, le milieu associatif n'est pas tout lisse. Elan Sindo a été dissoute d'octobre dernier, 2025. Donc l'idée, c'était de ramener ces objectifs de Elan Sindo à Enteranga autour du seul et même président qui se trouve être Roger Colli. C'est pour ça que Enteranga est devenu Enteranga Elan Botte depuis janvier. Et c'est la raison pour laquelle on nourrit énormément d'espoir. On est très, très positif quant à la suite des projets. Voilà.
J'ai posé les questions d'avoir les ressentis, peut-être les craintes, aussi les objectifs qu'on pouvait ressentir dans l'association. Les diverses craintes qu'on peut rencontrer sont d'abord de développer la liaison entre les associations et expliquer. C'est encore assez peut-être confus dans l'idée collective. Il faut bien appuyer ce que chaque association fait et comment elles se sont réunies. Les difficultés également sont au niveau du temps, parce que mon grand-père a de grandes ambitions et malheureusement le temps joue, on va dire, contre nous. Et enfin, le physique et le mental des membres de l'association qui sont très actifs. Je vais citer Nathalie Pierre. Face à l'argent octroyé par l'État sénégalais, honneur et rivalité des personnes qui voudront être sous les projecteurs, et face à la méchanceté d'anciens membres de l'association, j'ai peur pour nos amis et nos proches. Malgré tout, donc, comme l'a dit Raïssa Colli, nous avons de grands espoirs pour le futur. L'espoir que du concret se réalise, qu'on puisse recevoir des financements, qu'on puisse refaire un événement comme l'année dernière, comme le concert de Maria Siga dont nous vous parlerons dans un instant, de pouvoir créer de nouvelles sections de la coopérative, autour de 10 ou 15 sections. C'est tous ces objectifs-là qui sont mis en place et dont nous occupons aujourd'hui. Et à la question « Êtes-vous optimiste pour 2026 ?», j'ai un retour très positif qui, malgré les difficultés rencontrées très récemment et jusqu'à il y a peu, chaque personne à qui j'ai posé la question avait de grands espoirs pour la suite. Roger Colli dit « Au départ, nous étions plusieurs, mais une partie a démissionné et dissout l'association France en France, sans que les adhérents soient au courant ou soient d'accord. » Nathalie Pierre dit « Malgré mes craintes concernant de houleuses relations humaines, je suis très optimiste pour ce projet, car je crois vraiment en les énergies positives et constructives de celles et ceux qui le portent. » Enfin, Hugues Penaud nous partage son ressenti. « Il est très optimiste. On a reculé pour mieux avancer. » Passer l'étape du conteneur pour enchaîner les autres projets ici et là-bas. Donc le container, c'est une difficulté que nous avons rencontrée, c'est envoyer du matériel en grande quantité au Sénégal. Et l'acheminement de ce dit matériel reste un enjeu aujourd'hui. Nous espérons avoir rapidement une avancée à ce niveau-là. Et mon grand-père ainsi que Hugues sont actuellement au Sénégal et tentent de faire avancer cette démarche. Donc je vais redonner la parole à Raïssa Colli pour continuer.
Oui, nous sommes absolument optimistes parce que les enjeux, c'est pas la France qui va aller au Sénégal et dire aux Sénégalais ce qu'ils ont à faire. Il y a des savoir-faire de part et d'autre. L'idée, c'est d'échanger. C'est un système d'échange où on récupérera du savoir-faire français ou la France récupérera du savoir-faire sénégalais et comment on peut mettre ça en commun pour faire avancer l'humanité, parce que c'est pas une question de frontières ni de pays, c'est vraiment l'humanité qui est en jeu là-dedans. La culture sénégalaise, c'est pas seulement le riz, hein, c'est aussi le savoir-vivre autour de la musique, vraiment autour de la musique. On a vécu une expérience magnifique avec la venue pour Eland Sindo au mois de juin 2025. Cette venue qui reste magique parce qu'à chaque fois qu'on en parle, on a le sourire jusqu'aux oreilles. C'est une femme qui milite contre le départ des jeunes du Sénégal et qui vont certainement se retrouver à vouloir venir en Europe et se retrouver noyées, hein, parce qu'on en parle peu, mais ça existe malheureusement. Faire avec les moyens qu'il y a au Sénégal, et il y a beaucoup à faire. Du travail. Oui, pas que du travail, c'est aussi des loisirs, c'est aussi agrémenter la culture. Donc voilà, pour ça, réservez votre week-end du 27 et 28 juin 2026, parce que Maria Siga accepte avec grand plaisir de revenir chanter l'Afrique et l'humanité à Floirac, hein, la salle Lucie Aubrac.
Je vais conclure cette chronique en disant que si vous êtes intéressé par les projets autour de la solidarité, autour de l'hospitalité sénégalaise, à la découverte de cette culture, et si vous êtes simplement intéressé par cette démarche, nous sommes joignables et vous pouvez devenir adhérent et soutenir ce projet si vous en avez l'envie. Et donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Eh bien, magnifique chronique sur l'association Anderanga Elambot. J'espère que j'ai bien prononcé. Et du coup, maintenant, on enchaîne maintenant avec la chronique sur la définition qu'est la génération. Ce qu'on entend souvent parler à la télé, oui, mais telle génération, machin, elle a fait ci, tatatac, etc. Mais bon, bref, on parle souvent des jeunes comme s'ils formaient un seul bloc. Pourtant, on utilise des mots comme la génération X, Y, Z, etc. Mais du coup, je me suis posé cette question. À quoi ça sert de donner les noms aux générations ? On parle souvent des générations comme de simples tranches d'âge. Mais une génération, c'est pas seulement une date de naissance, c'est un contexte, un monde, une géopolitique, et aussi des technologies, des récits, des cultures. Pendant longtemps, on ne parlait pas vraiment de génération, parce que le monde changeait lentement. On vivait souvent comme ses parents. Même métier, même rythme, même imaginaire collectif. Puis, le XXe siècle arrivait, et les guerres mondiales, ils existaient. L'industrialisation, la radio, puis la télévision, l'informatique. Et pour la première fois, le monde commence à changer plus vite qu'une vie humaine. Comme les baby boomers, après 1945, grandissent dans un monde à reconstruire. Le travail est central. La famille est un pilier. Les grands récits collectifs dominés. Le cinéma et la télévision rassemblés. La norme est forte, parfois étouffante, mais elle fait société. Certaines identités existaient, sans être vraiment visibles. La génération X voit arriver l'informatique personnelle, les consoles de jeux, les chaînes privées, et grandit pendant la période de guerre froide. La menace est là, mais l'équilibre tient. Les récits deviennent plus sombres, plus ironiques, le cinéma part de division, de solitude, les sous-cultures émergent, les identités commencent à apparaître souvent en marge. Les millennials, génération Y, arrivent avec Internet. Forums, blogs, premiers réseaux sociaux, les séries deviennent mondiales, les jeux vidéo deviennent des mondes persistantes, on leur promet une mondialisation heureuse, puis vient le 11 septembre, les guerres en direct, les crises financières, les luttes sociales et féministes, le droit LGBT, diversité, gagnent en visibilité. On commence à nommer ce qui était longtemps resté silencieux. Et aujourd'hui, nous entrons dans un monde saturé d'écrans, smartphones, plateformes, algorithmes. Les films, les séries, les jeux vidéo ne sont plus seulement du divertissement. Ils deviennent des espaces d'identification, de refuge, parfois de débats politiques. Et les crises s'enchaînent. Climat, pandémie, guerre, économie instable. Et quand le futur collectif devient flou, les questions identitaires prennent plus de place. Parce que quand demain est incertain, on se raccroche à ce que l'on est, ici et maintenant. La génération Z, elle naît directement dans ce monde numérique. Réseaux sociaux, streaming, smartphone, tout est visible, commenté, archivé. Les médias deviennent des espaces d'expression, mais aussi de pression. Les questions de genre, de rotation, de représentation sont centrales, parce que tout se joue en public. Et déjà là, la génération alpha arrive, avec l'IA, l'écran dès l'enfance, continue, personnalisé en continu. Le jeu, le film, la série, l'apprentissage se mélangent tous. La frontière entre le réel et le numérique devient floue, très tôt. Chaque génération développe aussi ainsi ses langages, ses médias, ses combats, ses refuges. Aucune n'est meilleure ou pire qu'une autre. Elles répondent toutes à un monde donné. Quand on parle de génération, on parle de repères. Pas de cases fermées, mais de mondes partagés. Et la génération dont on parle le plus aujourd'hui n'est pas homogène. Quelqu'un qui est né en 1998 n'a pas grandi dans le même univers que quelqu'un est né en 2009. Mais tous arrivent dans un monde hyper connecté, instable et exposé. Un monde sous tension. Cette génération, celle qui vit à la fois dans le réel et dans les écrans, c'est la génération Z. Et aujourd'hui, la génération dont on parle le plus, c'est la génération Z. Et on a voulu savoir comment on s'est défini avec Sam.
Bonjour, je m'appelle Esteban. Bonjour, je m'appelle Esteban et j'ai 22 ans.
Je m'appelle Lucas et j'ai 16 ans, je suis en première.
Et Loan, j'ai 20 ans.
Moi, c'est Titouan, j'ai 20 ans aussi.
Qu'est-ce que tu aimes dans ta génération ?
En vrai, il y a de la polyvalence, on n'est pas tous pareils, on sait se démarquer. On sait s'amuser comme on peut malgré les nouvelles technologies et autres.
J'irais l'ouverture d'esprit, surtout. C'est un truc que je pense qu'il n'y avait pas à l'époque de nos parents et c'est quelque chose qui est très agréable à voir sur les jeunes qui nous entourent. Donc voilà.
Moi, je dirais un truc similaire. Et sur la question de la santé mentale, ça s'ouvre beaucoup et c'est très très bien.
C'est comme une grande communauté qui a beaucoup de jeunes du même âge. Donc il y a beaucoup de projets qui se concrétisent, beaucoup d'associations qui se créent pour différents domaines. Donc il y a vraiment une mixité sociale qui est importante.
À l'inverse, est-ce que tu as des points négatifs que tu pourrais donner si tu en as qui te donnent à l'esprit ?
Il y a de plus en plus de cyberharcèlement et que genre les réseaux, ça détruit un peu notre génération, malgré qu'on a su s'adapter, mais que genre on se cache un peu derrière ça.
Je dirais les réseaux sociaux. Je saurais même pas comment développer le sujet, mais c'est un truc que je trouve qui... Bon, il y a des avantages, mais il y a quand même beaucoup d'inconvénients, même sur la santé mentale, justement. Et sur le cyberharcèlement, sur tout ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas non plus à l'époque. Justement, j'avais discuté de ça, je ne sais plus avec qui, la dernière fois, mais le harcèlement, à l'époque, ce qu'on disait, c'est que c'était à l'école, quand tu rentrais chez toi, c'était fini. Puis maintenant, ça continue même à la maison. Et puis quand tu vois le taux de suicide qu'il y a par rapport à ça, je trouve ça assez désastreux. Donc voilà, ça, c'est un truc qui est pas mal gênant par rapport à notre génération, je trouve.
Je trouve qu'on est une génération quand même qui a eu beaucoup de changements, même au niveau scolaire, avec toutes les réformes du bac, du brevet. On est un peu la génération sacrifiée où tous les changements, c'est venu sur nous. Donc ça a été, je pense, compliqué pour certains de s'adapter à ça.
Est-ce que vous avez connaissance de l'image que notre génération elle reflète ?
Un peu Jean Foutiste sur les bords, sur plein de sujets, je pense, même sur les études souvent, sur l'ambition, je pense.
Moi, je sais que j'en avais parlé avec quelqu'un qui était gay et qui avait une quarantaine d'années et qui était vraiment content de voir notre génération qui était beaucoup plus ouverte là-dessus. Et ça lui faisait vraiment plaisir. Il parlait par exemple de la Gay Pride où il était très content de voir ça.
On a beaucoup l'image des plus anciens qui pensent qu'on est assez fainéant, qu'on ne veut pas travailler, alors que c'est au contraire, on essaie d'avoir des opportunités. On n'est pas dans la même époque, il n'y a pas les mêmes choix, et les mêmes opportunités qui s'offrent à nous quand même, donc c'est assez compliqué de se développer. Je trouve qu'on est une génération qui travaille assidûment et qui essaie de faire notre mieux dans cette France.
Est-ce que tu te reconnais dans l'image qu'on donne de la génération Z ?
Un peu en vrai, mais je pense pas trop.
Non, pas tant que ça. Oh, si, je pense que parfois on peut avoir une mauvaise image, mais ça va, je me sens pas concerné. Moi non, en tout cas pour ce que j'ai dit juste avant, non. Je pense pas, enfin moi je sais que, enfin si je peux être un peu Jean Foutiste sur le côté études et tout, mais c'est pas un truc qui me dérange, donc oui je me reconnais, mais je prends pas ça comme une critique ou voilà.
Ouais, moi je me reconnais bien dans la génération et ça va.
Et du coup, dernière question, est-ce que tu connais l'organisme de la mission locale et tu sais à peu près ce que c'est ?
Non, je connais pas du tout.
Oui, c'est un organisme qui permet d'accompagner les jeunes donc pour trouver du travail. Ça peut être aussi dans la santé mentale aussi, ils ont un pôle. Donc c'est vraiment pour accompagner les jeunes au mieux qui ont peut-être des difficultés ou un parcours différent pour leur prouver qu'ils peuvent réussir à des choses.
Et est-ce que tu as été passé par la mission locale ?
Oui, je suis passé par la mission locale pour faire un CEJ, un contrat d'engagement jeune, pour me permettre d'évoluer, d'apprendre plein de choses sur plein de métiers. Donc c'est vraiment une passerelle importante pour les jeunes et qu'il ne faut pas sous-estimer, qu'il ne faut pas hésiter à réorienter les gens.
Et comment tu as connu la mission locale ?
J'étais dans des instances de la mairie et j'ai appris à connaître la directrice de la mission locale de Bordeaux. Donc c'est avec elle qui m'a dit « Viens à la mission locale, je t'inscris et on va voir pour ton projet de santé et ton projet professionnel, qu'est-ce qu'on peut faire ?»
Et du coup, qu'est-ce que tu en penses ? Enfin, tu as un avis par rapport à ça ?
Bah, c'est intéressant et c'est bien pour les jeunes de les accompagner pour les sujets comme ça.
Au vu des retours que nous avons obtenus grâce à notre micro-trottoir, on peut voir que la génération Z fait tout pour répondre, on va dire, aux attentes. Elle a beaucoup de pression due à la génération passée qui estime qu'elle ne fait pas assez au quotidien. Alors qu'on a bien vu avec Sam en premier lieu de notre émission, le monde du travail est très difficile et pour les jeunes, c'est un enjeu aujourd'hui de travailler, mais ça peut être c'est très compliqué. Et l'image que certains peuvent avoir de nous, de notre génération, comme quoi elle ne fait pas assez au quotidien, a beaucoup enflammé les passions. Et on peut voir que la plupart des jeunes se reconnaissent assez peu dans l'image de jeunes qui ne font pas assez au quotidien. Et c'est quelque chose qu'on a pu constater grâce à cette expérience sociale. Et c'est intéressant de pouvoir aborder ça en grande antenne.
Et alors, si je peux rajouter un truc, oui, par rapport à... Alors nous, on est génération quoi, Isabelle X ? Je crois qu'on est un petit peu plus avant. Et, voilà, oui, on est dans la même, je crois. Et du coup, alors, c'est ce qu'on disait hein, sur la préparation de l'émission aussi, c'est que notre génération, on avait exactement les mêmes retours des générations précédentes. Sauf que la vôtre, c'est vrai qu'on a connu l'évolution, le gros boom aussi des réseaux sociaux et tout ça. Donc, moi, je me rappelle très bien, vous êtes des feignants, vous n'êtes pas motivés, vous n'avez pas d'ambition, ça a été dit. Enfin, voilà, des choses comme ça. C'est les mêmes discours, en fait, on a l'impression de génération en génération. C'est peut-être le bizutage pour passer au monde adulte. C'est peut-être ça, en fait.
Un rite de passage, tu veux dire ?
C'est ça. Ah, j'ai compris, c'est ça. Vas-y.
Après, je pense que ce qui perturbe aussi énormément les générations présentes par rapport à nous, c'est qu'il y a eu énormément de changements avec l'arrivée juste de notre génération de manière générale, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit avec toutes les réformes qui existent, et le fait que ça donne un peu une impression qu'on essaye de faire bouger les choses aussi à notre échelle, avec justement tous les sujets qui se libèrent, toutes les questions sociétales, politiques, les choses comme ça. Et peut-être que d'un côté, ça brusque un petit peu le monde, peut-être que ça crée une forme de chaos et d'incompréhension qui fait que potentiellement, il y a des avis qui ne représentent pas la réalité des choses. Mais d'un autre côté, dans une même génération, en fonction de l'âge, il y a quand même un écart, même si on est dans la même période, il y a énormément d'écarts et de différences qui, je trouve, se creusent de plus en plus avec les générations qui arrivent. Parce que même si, du coup, l'écart d'âge est minime, l'écart en termes de, on va dire, d'univers et de codes sociaux est complètement différent. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui bouscule énormément la cohésion entre eux. D'âge.
Ce qu'on a pu voir aussi de notre micro-trottoir, c'est que les jeunes aujourd'hui, enfin les gens de notre génération, je dis les jeunes mais j'en fais partie, sont vraiment lucides sur leur génération. On a eu des retours sur la surabondance des réseaux, les jeunes en sont conscients, nous en sommes conscients. Le cyberharcèlement est un défaut qui est beaucoup revenu quand on a demandé ce qui n'allait pas dans notre génération. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, On est conscient des problèmes. C'est pas pour autant que les problèmes disparaissent aussi facilement, mais ça permet vraiment de se rendre compte que on est une génération active qui fait tout pour avancer et changer les choses. Et malgré les difficultés, nous sommes prêts. Et c'est intéressant de se dire que chaque génération est pareille avec les successeurs. On est toujours un peu plus dur, on a un regard plus critique. On se dit toujours que ceux qui passeront après feront moins bien que nous. Ça a été le cas depuis que les générations existent, on va dire. Et l'important, c'est chez tout le monde de rester ouvert malgré les changements, malgré le fait qu'on ne comprenne pas forcément ce qui vient après nous, de rester bienveillant, de pouvoir accompagner, donner un peu notre expérience, la proposer. En fait, ça reste un échange. On ne doit pas absolument plaquer ce qu'on connaît sur quelque chose qui ne nous correspond pas forcément. Et garder l'ouverture d'esprit. C'est pour ça qu'on a voulu interroger des personnes d'une autre génération que la nôtre pour voir ce qu'ils pensaient. On n'a malheureusement pas eu suffisamment de retours à ce niveau-là, mais ça permet de créer un échange pour savoir ce que les autres générations pensent, et en fait ça crée un débat, une ouverture d'esprit, et c'est ça qui est important aujourd'hui.
Merci beaucoup pour cette chronique sur la génération Z. On peut vous faire un petit résumé, c'est que on dit à chaque fois la nouvelle génération, elle ne travaille pas. Ouais, c'est ça un peu le résumé. C'est
tout. Et la Y et la X, et ben on vous aime quand même les Z. Voilà, sachez-le.
Du coup, maintenant, on enchaîne avec la chronique qui s'appelle L'Enfer Bébé. Et je vais vous raconter quelque chose comme si c'était réel. Imaginez devoir vous occuper d'un bébé. Pas juste le nourrir, mais parce qu'il va devenir. Vous savez, j'ai accepté un jour ce job parce que c'était simple. Une garde de nuit, un bébé, une maison. Rien d'inhabituel jusqu'à là. Et quand je suis arrivé, la maison était propre. Calme, silencieux. Et le bébé était dans son berceau, habillé en jaune. Il ne pleurait pas, il me regardait. On m'avait laissé des consignes. Et là, à ce moment-là, je me dis, mais quel parent laisse son enfant tout seul dans la maison alors qu'ils attendaient à ce que le babysitter arrive? Bref, à ce moment-là, j'étais en train de me dire, c'est bizarre, mais vas-y, je suis payé, c'est 100 € de l'heure, donc je ne vais pas faire la fine bouche. Du coup, dans la consigne, c'était le nourrir, le changer, le coucher. Bon là, je dis, bon vas-y, facile quoi, c'est un bébé. Et du coup, je l'ai pris dans mes bras. Sauf que là, il était lourd. Mais pas genre lourd, il faisait 3 kilos, mais il faisait 10 kilos. Je dis, bon, sacré bébé. Mais bon, je dis, bon, c'est pas grave, il est un peu lourd, il a assez beaucoup mangé. Donc je l'ai nourri, il a souri. Mais il a fait un sourire figé. Bon, je dis, bon, il est un peu bizarre bébé, mais bon, vas-y. Et quand je l'ai changé, bah, je suis retourné, la couche n'était plus là. Je lui ai dit que j'avais dû la poser ailleurs, parce que j'étais tellement un peu choqué par son sourire et son poids. Du coup, bah, je l'ai couché. J'étais à la lumière, et en quittant la chambre, j'ai entendu rire. Je dis, bizarre ce bébé, pourquoi il rigole tout seul? Bon, vas-y, c'est un bébé. Et les bébés sont souvent bizarres. La nuit suivante, la télévision s'est allumée tout seul. Pas de son, juste des images étranges. Des formes, des visages. Je dis, bizarre, cette télé, peut-être elle bloque, elle a un bug. Je dis, bon, pas grave, je vais voir dans la bibliothèque. J'ai trouvé un livre ancien. Il s'appelait « The King in Yellow ». Je ne l'ai pas lu, mais je me souviens encore du titre. Lui, par contre, le bébé, n'était plus dans son lit. Je l'ai retrouvé dans le salon, assis sur le sol, à la même place que la veille. La maison, en plus, elle me semblait différente. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais l'impression comme s'il y avait des pièces qui ont changé. Comme si la cuisine, c'était la salle de bain, c'était la chambre du bébé. Et puis, surtout qu'il y avait un ascenseur dans une maison de 2 étages. Je dis « bizarre, ça !» Surtout que je ne l'ai jamais vu avant de venir ici. Bref, genre dans cet ascenseur, en descendant, j'ai trouvé une pièce technique. Derrière une porte fermée, à l'intérieur, il y avait un petit robot. Éteint, abîmé. Sur sa coque, un nom, Newt. N-E-W-T. Je l'ai allumé, il fonctionnait mal, mais il parlait. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre ça, un robot, un bébé qui rigole tout seul, la télé, l'ascenseur, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Bon, vas-y, je suis payé toujours 200 € de l'heure, donc je suis encore heureux. Et il me disait quelque chose qui n'allait pas, que l'enfant n'était pas normal, et que la maison n'était pas non plus. À partir de là, bah, j'avoue que ça a commencé à faire le lien avec tout ce qui s'est passé. Du coup, là, les choses se sont accélérées. Le bébé apparaissait dans des endroits impossibles, au-dessus de l'armoire. Je dis, mais comment il fait ce bébé pour monter dessus? Trop bizarre. Il restait immobile pendant de longues minutes, puis il bougeait d'un coup. Parfois, j'ai l'impression que la nuit recommençait. Sans le robot, il ne serait pas sorti de certains endroits. Il me disait où aller, quand m'arrêter, et quand ne pas regarder. Et puis il y a eu un moment où tout s'est arrêté. Une lumière jaune.
partout, le bébé criait. Ce n'était plus un cri d'enfant. Le robot m'a dit de partir, que lui resterait là. Que c'était la seule solution. Je me suis retrouvé dehors, devant la maison, et n'était plus là. Dans ma main, il y avait une petite pièce électronique. Un dernier message enregistré. Il disait que c'était fini. Et que si j'entendais encore des pleurs, je ne devais pas revenir. Et depuis, quand j'entends un bébé pleurer la nuit, je ne m'arrête pas, je continue de marcher. Je me dis que parfois, certaines maisons ne veulent pas qu'on s'en aille.
Ça donne envie d'avoir un bébé, hein?
Ah bah, ça c'est sûr.
Être animateur, vraiment, wow. Un métier de passion.
Et du coup, bah, ça, vous pouvez retrouver dans le jeu, ça s'appelle Yellow Baby.
Baby Yellow.
Ouais, exact, Baby Yellow. Et du coup, bah, je vous remercie d'avoir été avec nous cet après-midi. Ah, pardon, désolé.
Tu voulais nous couper le sifflet, là, hein,
c'est
oui.
Ça
ah là 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 là.
Et du coup, on se retrouve avec Pierre, face à tout ce qu'on vivait, qu'on vient d'évoquer, certains ne se contentent pas de se constater. Ils agissent à leur échelle plutôt. Ce qu'on transmet, ce n'est pas seulement des mots, ce sont aussi des actes. La Green Mission, c'est qu'on va découvrir maintenant, et Pierre est avec nous.
Alors Pierre et Isabelle, du coup, voilà, on va juste faire quelques mots sur un appel justement. Alors il y a un appel et puis une date surtout à retenir, hein, parce qu'on va vous marteler pendant des mois et des mois sur cette date qui est donc le 10 juillet. Donc c'est la première fois peut-être que vous l'entendez. Non, on l'a déjà dit en plus. Bon, c'est pas grave. Donc le 10 juillet prochain, à l'espace Simone Signoret, la Green Mission Festival. On a lancé également un concours de court-métrage sur les jeunes, enfin pour tous les jeunes en fait de Gironde, avec une cérémonie remise de prix donc qui aura lieu ce jour-là, façon Cannes, machin. Enfin, il y a plein de surprises de réservées. Donc voilà, le rendez-vous est à prendre le 10 juillet. Tu veux rajouter quelque chose, Isabelle?
Oui, ceux qui sont intéressés pour participer au court-métrage, la date limite d'inscription est le 27 février.
Oui, et vous pouvez nous contacter à la mission locale pour déposer vos candidatures. C'est ouvert à tous les jeunes de 14 à 26 ans. On n'aime pas trop les cadres, donc même si ça déborde, c'est pas grave. Hein, donc même si vous êtes un tout petit peu plus vieux, vous pouvez. Et du coup, il y aura un jury et tout ça, une sélection de fête pour le jour de la cérémonie. À vous de jouer. Action!
Mission locale des Hautes-Garonne, et n'oubliez pas le 10 juillet.
J'ai hâte d'être présent sur le 10 juillet à l'espace Simone Signoret.
Yeah.
Et merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Et puis peut-être que la jeunesse n'est ni perdue ni à être sauvée. Peut-être qu'elle cherche juste à être écoutée. Bref, c'était la jeunesse influente. À toutes.
C'était Jeunesse Influente, une émission présentée par et pour les jeunes, tous les mercredis 14h-15h, à retrouver en podcast sur eauderadio.fr.